sur Aligre FM 93.1. Dans la vie est un roman, nous sommes mardi matin. Et ce matin, c'est Frédéric Gournet, auteur de Métaphysique du rock, qui va nous présenter notre invité. À toi, Frédéric.
Merci, Yves. Oui, aujourd'hui, nous recevons Frédéric Lowe, qui est musicien, multi-instrumentiste. Je crois qu'il joue à peu près de tout ce qui sonne, tout ce qui vibre, tout ce qui résonne, à part peut-être les instruments avant, on va lui demander. Il est compositeur, interprète, réalisateur musical, arrangeur, producteur, etc. Bonjour, Fred.
Bonjour.
Merci d'être venu à Aligre FM. Alors, tu as travaillé avec Daniel Darc, Stéphane Escher, Alex Baupin, Pony Pony Run Run, Jacques No, Cali, Alain Chamfort, Bill Pritchard, Pete Doherty, entre autres. Donc tu es, comme on l'a vu, un musicien complet, achevé, un artiste à part entière. Dans ta famille, quand tu étais jeune, est-ce qu'on écoutait beaucoup de musique? Est-ce que tu viens d'une famille de mélomanes ou au contraire pas du tout?
Alors mes parents, pas tant que ça, bien qu'ils aimaient un peu de musique, mais ils écoutaient plutôt la radio. Ma mère peut-être avait 2-3 disques, Barbara, Brel. Par contre, j'avais une sœur aînée qui écoutait beaucoup de, qui avait 7 ans et demi plus que moi, et qui, elle, écoutait beaucoup de musique, beaucoup de rock. Et donc, elle écoutait à fond les Stones, le Velvet Underground. Et donc, très jeune, j'ai été à des concerts avec elle. Je devais avoir 12 ans. Et puis, elle avait un petit ami qui était journaliste à Best et après au Monde et aux Enfants du Rock. Donc en fait, je me suis retrouvé très jeune avec, dans les loges avec les Clash ou Gainsbourg ou tous les groupes de l'époque, Marquis de Sade, les B-52s, les Talking Heads, des choses comme ça. Et puis sinon, le seul musicien peut-être, c'était mon grand-père que je n'ai pas connu, qui était mineur dans le Nord et qui jouait de la harmonica. J'ai toujours son harmonica.
Tu en as joué sur des fois dans des enregistrements, sur un album?
J'ai joué de l'harmonica, mais pas sur le sien. Et puis j'avais un grand-oncle qui était chef-op, qui a été chef-op notamment de Napoléon d'Abelgance. Et voilà, c'est les seuls artistes de la famille. Mes parents ont travaillé à 13 ans, n'ont pas fait d'études. Et c'est vrai que...
Donc c'est pas un milieu artistique, privilégié. Alors d'où vient du coup ta formation musicale? Comment t'as appris la musique?
Écoute, c'est un peu, c'est vraiment un peu une histoire étrange. C'est que à l'école, on a appris la flûte à bec. Et puis, dès que j'ai eu une flûte à bec entre les mains, j'ai commencé à écrire des chansons avec la mélodie.
C'est incroyable parce que tu sais que la flûte à bec, en fait, pour plein d'enfants, c'est un cauchemar, c'est un souvenir atroce.
C'est ça.
Toutes ces notes dissonantes et tout. Et pour les professeurs de musique, c'était aussi un supplice.
C'est ça.
Et toi, ça a été ton cheminement vers la musique.
Voilà. Et donc, la prof a voulu voir ma mère. Elle était très jeune et tout de suite, elle a conseillé à ma mère que je prenne des cours. J'ai pris des cours d'harmonie avec son mari, qui était un compositeur de musique contemporaine. Malheureusement, j'ai perdu leur nom et je n'ai jamais pu les retrouver. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Et puis après, découvrant le rock, j'ai voulu tout arrêter. Et puis là, j'ai composé d'une façon complètement empirique. Et puis, notamment en arrivant au collège, peut-être en sixième, il y avait un garçon qui jouait. À l'époque, c'était beaucoup plus libre. Et j'avais un ami, je voyais un garçon qui jouait de la guitare dans la cour. On pouvait jouer comme ça en récréation, ce qui paraît un peu étrange aujourd'hui. Et ce garçon, j'ai été le voir, je l'ai écouté, je le voyais jouer. Et puis, je lui ai dit, viens, tu m'apprends un peu à jouer de la guitare, et puis moi, je vais te faire écouter du rock'n'roll. Et c'est marrant parce que ce garçon a fait carrière. Il a été, c'est Bruno Garcia de Ludwig von 88.
Ah, et, oui, je connais.
Et de Sergent Garcia.
Mais bien sûr.
Voilà, le premier concert qu'on a fait ensemble, c'est à la fin de l'année, dans la classe, comme ça, on composait nos chansons.
Ah, c'est incroyable. Oui. Quand on regarde ton adolescence, effectivement, on peut être que jaloux parce que bon, tu vas voir très tôt à 12 ans B-52s, Devo, Elvis Costello, Suicide, ouais, en live. Tu traînes donc dans les loges avec Bijou, Gainsbourg. Tu as 13-14 ans, tu vois les Clash, Blondie.
Ouais,
donc, tous les amoureux de musique sont affreusement jaloux de ce genre de privilège incroyable, cette formation musicale. Et puis, il y a très vite deux groupes en France qui arrivent dans ces années-là aussi. C'est Taxi Girl et Marquis de Sade.
Ouais.
Et rétrospectivement, on s'aperçoit que ces groupes ont été vraiment importants, peut-être plus que Téléphone et Trust, au niveau de la descendance, au niveau de ce que ça a créé comme vocation, et en tant qu'école musicale presque.
Ouais, ouais.
Comment tu peux expliquer ça, que finalement, avec le temps, on s'aperçoit que ces groupes étaient vraiment fondamentaux ?
Écoute, moi, je ne suis pas là pour donner des leçons. Ou des, je ne sais pas, moi, juste à l'époque, c'est les deux groupes qui m'ont le plus marqué.
Oui, alors parle juste pour toi, suite. Alors, juste pour toi.
Et je ne sais pas, parce que... Peut-être qu'à la fois, il faisait une synthèse de ce qui pouvait se faire ailleurs, mais en même temps, avec un truc assez français pour Taxi Girl, la culture d'ailleurs de Daniel, qui a toujours aimé Fréhel. Ou... Et puis peut-être Marquis de Sade, le fait qu'il soit breton, le fait qu'il y ait une différence régionale, et puis qu'il soit à la fois qui cherche des chansons, mais qui cherche aussi soniquement à être un peu différent de ce qui pouvait se faire ailleurs. Je sais pas, pour moi, c'est un peu comme le krautrock, un peu comme Cannes ou Neuil, où à la fois, on voit bien que ça ressemble à du rock, mais qu'en même temps, il y a un pas de côté, il y a une identité.
Ouais, tu dis que Kraftwerk était aussi important pour toi dans ton cheminement.
Ah ouais, énormément, ouais. D'ailleurs, c'est un truc qui me fait toujours rire, moins maintenant, parce que c'est devenu à nouveau une musique de plus vieux. Mais il y a 20 ans, quand je rencontrais des gens, ils me disaient « Non mais moi, je fais de la musique électronique. » Genre, je ne pouvais pas comprendre. Tu ne pouvais pas comprendre. Alors qu'en fait, on a tous écouté Kraftwerk, on a tous aimé, je ne sais pas, Fat Gadget, Suicide, ou enfin, voilà. Mais non, c'est peut-être que... Moi, j'aimais beaucoup aussi des groupes. Il y a un groupe qui était très fort quand j'étais gamin, c'était Bisou. Et les deux premiers albums, ils étaient extraordinaires. C'était très bien écrit. C'était à la fois... ils avaient une énergie de pub rock, un peu pré-punk, un peu comme les Inmates ou des choses comme ça. Ou même les Dogs, c'était un groupe, par exemple, très fort. Mmh. Voilà, il y a eu... Alors, c'est sûr qu'il y a des groupes qui ont... Peut-être que Daniel Darc et puis Philippe Pascal étaient aussi des figures très charismatiques, donc on retient aussi ça. Mais j'ai aussi beaucoup aimé le premier album de Téléphone, par exemple, quand c'est arrivé, c'était aussi quand même un grand bol d'air frais.
Ah, il ne s'agit pas de dire du mal ni de Trust ni de Téléphone, ça a été important, mais au niveau, c'était un rock qui était plus identifiable, plus américain, plus anglo-saxon, et c'était plus dans la lignée des Stones, dans la lignée des groupes de métal américains, donc pour Trust j'entends. Donc on était, c'était super bien, mais on était moins surpris.
Oui.
Il n'y a pas trop de descendance de Téléphone ou de Trust, ou s'il y en a une, de toute façon, elle va se référer à des Anglais ou des Américains. Alors que là, Marquis de Sade et Taxi Girl, il y a un truc très européen, étrangement européen. Et j'ai l'impression qu'après, il y a un label qui arrive qui s'appelle Lithium, qui signe Dominica, Diabologum, entre autres, Programme, Expérience. Et puis il y a d'autres artistes qui émergent sur d'autres labels, comme Yosek, Philippe Catherine, bon, la liste est longue. Et ces gens-là se réclament beaucoup.
Oui.
Et même toi, je crois aussi, de Philippe Pascal et de Daniel Darc.
Donc, oui, c'était le grand frère, oui, bien c'est sûr.
Moi, je ne me rappelle avoir vu à la Rapao un concert de Diabologum et Darc était invité, tu vois.
Oui, c'est vrai.
Et c'est et donc il y a une lignée comme
ça. Passé, d'ailleurs.
Ouais. Mais il y a une lignée comme ça qui s'est faite et on pourrait dire l'école entre guillemets, parce que le terme n'est pas très joli, mais de la musique française actuelle doit beaucoup et se revendique de ces groupes-là. Pour revenir à toi, à ton parcours personnel, à quel âge tu as commencé à composer et à vraiment écrire des chansons et à t'enregistrer ?
C'est ce que je te dis. Peut-être j'avais 10 ans là, avec la flûte. je m'enregistrais une partie de flûte et puis je chantais dessus. Après, j'avais deux magnétocassettes.
D'accord.
Et donc après j'ai commencé à faire des démos. J'avais peut-être 13 ans. Grâce à ma sœur, donc elle avait un ami qui était Gilles Ribrol, qui jouait dans un groupe qui s'appelait Casino Music, qui avait été produit par Chris Stein de Blondie. Et eux c'était le Graal, un studio où ils avaient un magnéto 4 pistes et hop, on s'enregistrait. J'avais fait une première démo là-bas. Après, j'avais fait une autre démo chez Wisniak, Gilles Wisniak, je ne sais plus. quelqu'un qui a fait pas mal de choses avec Sérone. Voilà, après, et puis après, la grosse difficulté quand on était gamin, c'était de trouver un endroit pour pouvoir jouer et pour pouvoir s'enregistrer. Ouais.
Mmh. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose, que ce soit au niveau des salles, au niveau des studios, au niveau du matériel.
Ça coûtait très cher.
Même s'acheter une guitare, c'était tout. Il fallait aller à Paris, il fallait aller au magasin, ou en import, ça coûtait horriblement cher. Enfin...
Non, en fait, moi j'habitais Nogent-sur-Marne et il y avait un très bon magasin de guitare à Nogent. Et d'ailleurs, c'est marrant parce qu'un autre garçon qui est de Nogent que je voyais... quand j'étais tout môme, c'est Laurent Vouzy.
D'accord.
Et en fait, son pote de classe à Laurent, c'est Vander.
Et... Christian ?
Oui.
Ah, le batteur de Magma.
Ouais, tout à fait. Et ils ont commencé à faire la musique ensemble. Et donc,
Vouzy et Christian Vander.
Ouais, ouais, ouais.
Incroyable.
Ouais.
Incroyable. Parce que Vander, il faut préciser que c'est un des plus grands batteurs de jazz fusion qui ait jamais
tout à fait,
été.
Tout à fait.
Moi, j'ai vu en concert, c'est très impressionnant de le voir parce qu'il il a l'allure d'une brute, on dirait un homme des cavernes derrière ses fûts. Et en fait, c'est un joueur incroyable qui a fait Magma, donc il a une grande histoire. Donc, ça, c'est incroyable ce que tu me racontes. Et alors, toi, par contre, très tôt, je crois que tu joues dans des groupes en fait.
Ah oui, très tôt, je rentre dans un groupe et puis après, j'en monte un autre. Et puis j'en ai fait, trois ou quatre. Et j'ai joué pendant très longtemps dans les groupes. Ouais.
Et c'était le format qui te plaisait ? C'est là où tu étais le plus à l'aise ?
Oui. À la fois, je peux être paradoxal, moi. J'aime être en groupe, et puis après, quand je suis en groupe, j'ai envie d'être seul, et puis quand je suis seul, j'ai envie d'être en groupe. J'aime l'énergie du groupe, voilà. Moi, j'aime le Velvet Underground, j'aime les Beatles, j'aime les Smiths, j'aime les Cure, j'aime l'idée que ce soit 3-4 personnes ensemble et qu'il y ait cette énergie, ou comme les Clash. Après... ça a aussi beaucoup d'avantages de faire de la musique seule parce que tu peux aller plus loin. Souvent, ça dépend. En fait, c'est une histoire d'énergie. Ça dépend des moments.
Mais à cette époque-là, donc tu es en groupe.
Oui.
Et en fait, tu vas signer seul.
Oui.
Et j'ai cru lire quelque part en fait, que c'était un regret à ce moment-là.
Ah, bien sûr.
Que tu aurais voulu signer en tant que groupe.
Ah, bien sûr. Voilà. C'était un grand regret, ouais.
Ouais.
Oui, c'était très bizarre. En fait, ce que je trouvais bizarre en France... c'est que si t'étais seul, d'un coup, t'étais un chanteur de variété. Après, j'ai toujours aussi eu énormément de mal à définir ce que je faisais. D'ailleurs, tu l'as vu tout à l'heure en me présentant. C'est-à-dire que pour les gens du... Quand je pense à la scène indépendante française, genre Lithium, pour des gens comme ça, je faisais des choses trop mélodiques. Et puis pour la variété, j'étais trop underground. Parce que j'ai toujours aimé, moi, les mélodies, et puis en même temps, le fait que ce soit un peu aride, un peu sec, un peu... Et donc, d'être... par exemple, quand tu vas chercher ton disque et qu'il est dans le rayon variété française, ça me faisait toujours un peu bizarre. Tu vois,
Surtout qu'à cette époque-là, la variété, c'était pas terrible quand même. Enfin, c'était assez horrible. Bah, écoutez, il y avait des... Marie-Thi Gilbert Carpentier, il fallait se faire des mélodies, des arrangements qui étaient parfois vraiment...
c'était un grand fourre-tout, quoi.
Ouais.
Il n'y avait pas vraiment de... D'ailleurs,
c'est pas comme Identité Anglaise, tu vois, t'allais à Londres, t'écoutais la variété, enfin la pop anglaise, bon, tout de suite c'était autre chose.
Non mais les Anglais, c'est marrant parce que je me suis aussi vraiment renseigné là-dessus, c'est-à-dire qu'il y avait en fait des charts anglaises, et comme c'était quand même les majors qui avaient les majors compagnies, les maisons de disques qui avaient le plus d'argent, qui était dans le top 10, c'est des producteurs indépendants qui ont eu l'idée de faire des charts indépendantes.
D'accord.
Et d'un coup, dans ces charts indépendantes, tu avais les Smiths, tu avais les Cure, tu avais Depeche Mode, tu avais des groupes indépendants.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
Donc tu signes sur une major, hein? Tu sors deux premiers albums en 97 et en 2000, La Marne Bleue et puis Les Anges de Verre.
Oui.
Et donc ces albums sont des échecs, en fait, ça se vend pas, ça marche pas. Comment tu l'as vécu à l'époque, la sortie de ces albums ?
En fait, le premier album, par exemple, déjà, c'était cette situation où j'ai eu un groupe pendant 10 ans avant, où on a fait deux albums qui sont jamais sortis. Donc ça, c'était quand même un peu bizarre, on avait enregistré des disques, et ces disques ne sortaient pas. Et ensuite, je me retrouve à signer seul dans un label vraiment mainstream, avec des gens adorables, mais Je ne comprenais pas très bien ce que je faisais. Mes voisins, c'était Johnny Hallyday, Florent Pagny, Zazie. Je n'avais rien contre eux, mais je ne comprenais pas très bien ce que je faisais là. Uh-huh. Et mon premier album sort, j'ai des bonnes critiques, et puis je vends quand même suffisamment de disques, mais c'est rien pour... c'est rien pour le grand public. Et donc
c'est des ventes honorables, mais par rapport à tes voisins, tes colocataires de maisons de disques,
c'est ça.
C'est rien, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire que là, je me retrouve un peu dans une sorte de no man's land, parce qu'en plus, les médias, par exemple, qui pourraient me défendre plus si j'étais chez Lithium, me défendent un peu, mais malgré tout, les attachés de presse qui travaillent chez Universal à ce moment-là, leur but, c'est que je passe sur Energy, et moi, ce n'est pas du tout mon but. Donc je ne le vis pas du tout comme un échec, je le vis plutôt comme un chemin, et je me rends bien compte des limites à la fois de ce choix de signature et en même temps de mes limites propres aussi. Donc le deuxième album, je veux le faire, parce que le premier album, je le réalise moi, parce qu'avant, j'ai toujours réalisé mes démos, j'ai toujours eu envie de faire ce que j'avais envie de faire musicalement. Et le deuxième album, je le fais avec un garçon qui, à ce moment-là, est un peu au creux de la vague, qui est Dominique Blanc-Francard. Et Dominique, il avait travaillé avec Gainsbourg, il avait travaillé avec Escher, avec Les Innocents, l'affaire Louis Trio, qui étaient par exemple trois exemples d'artistes que je trouvais à la fois avoir eu des succès commerciaux et en même temps avoir une exigence, avoir des goûts communs. Et je passe 4 mois avec Dominique qui sont vraiment extraordinaires en termes d'apprentissage. Parce que parallèlement, moi, j'ai fait une licence de maths et une maîtrise de maths et d'informatique. Et donc, j'aime bien les sciences, je comprends très bien à quoi sert une machine. Et quand il fait un truc, je lui demande ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et puis il est un peu mon maître, là. Et cet album, Les Anges de Verre, artistiquement, j'aime pas toujours ce qu'on a fait ou ce que je l'ai laissé faire, mais j'avais vraiment besoin, là, de laisser faire et de voir... à la fin, de faire une synthèse un peu entre qu'est-ce que moi j'aurais fait si je l'avais fait seul, qu'est-ce que techniquement il m'a appris, il m'a appris aussi à travailler avec des musiciens qui à ce moment-là sont des requins de studio, et moi, pour moi, avant, c'était un peu travailler avec le diable, et en même temps me rendre compte que c'était absurde, parce que j'adore les Beach Boys, par exemple, Brian Wilson prend les musiciens de Spector, et qui sont des session man. Ouais. Tout le côté, d'un coup, je deviens un peu moins nigo là-dessus dans le comment obtenir ce qu'on veut obtenir. Et donc, je prends un peu ces disques comme vraiment de l'apprentissage. Dans mon Graal, il y a des gens qui ont réussi tout de suite, hein, comme les Beatles ou les Smiths. Et puis, tu as des gens comme Bowie, mais un temps dingue avant de devenir un peu ce qu'il va devenir. Mmh. Donc, je n'ai pas du tout de...
Mais est-ce que tu en... Est-ce que
je
ne
cherche pas de...
À ce moment précis, là, après des deux albums, est-ce que tu vis de la musique? Est-ce que tu t'en sors ou tu dois travailler à côté?
Quand je fais... Entre le groupe et ma signature chez Universal, là, je travaille à côté. Et puis, à partir du moment où j'ai signé, j'ai vécu de ma musique.
D'accord.
Et même ça me paraissait dingue. Parce qu'en fait, enfant... on travaillait comme des dingues, on jouait partout, on sortait tout le temps pour trouver... des moyens de faire d'autres concerts. On était assez dingo quand même. Mais je n'avais pas du tout l'impression que j'allais gagner de l'argent avec la musique. C'était un peu comme une mission. Je sais pas très bien comment l'expliquer. On était habité, en fait.
C'est un feu sacré.
Ouais. Par exemple, mon ami qui était manager, avec qui je travaillais, on sortait partout. Et lui, il a fini par... il est mort malheureusement il y a 5 ans, mais il a produit Amadou et Mariam, par exemple, ou tous les projets avec le Mali, avec Damon Albarn. Par exemple, je suis passé 4 soirées avec Damon Albarn, où j'ai travaillé même dans le studio de Damon Albarn avec les Pony Pony Ronon. Je les ai connus avec Marc-Antoine, où...
Il faut savoir que ça a été des succès énormes.
Ouais, quand il est mort, Marc-Antoine, il voulait absolument me présenter Brian Eno, avec qui il travaillait. Voilà, donc on était... J'ai l'impression que c'était une sorte de long cheminement de voie de traverse, en fait. Et quelque part, je trouve que j'ai eu de l'intuition, mais aussi beaucoup de chance.
Ouais, c'était ma question suivante que tu anticipes. Donc, on est vers 2002-2003.
Ouais.
Et tu croises Daniel Darc. Alors lui, pour le coup, est vraiment au fond du trou, parce que ça fait 14 ans qu'il n'a rien enregistré, 10 ans que rien n'est sorti en disque.
Oui.
Il est presque à la rue, on va le dire. Oui. Il n'était pas rare de le croiser à la 8-6 dans le 11e, dans divers états.
Oui.
Et donc, tu as beaucoup déjà raconté cette histoire. Et puis, ici même, tu es venu il y a quelques semaines nous raconter comment tu l'avais rencontré. Mais alors, dans cette rencontre, quelle est la part pour toi? Est-ce que tu fais la part du hasard et du destin dans ta vie? Comment tu arrives à voir ça?
Écoute, quand j'habite dans le 11e, d'un coup, au bout d'un moment, je vois Daniel errer et puis je me rends compte qu'on est voisins. Après Daniel, j'avais joué en première partie de Daniel en 89, quand il avait joué au New Morning. J'avais fait sa première partie avec mon groupe. J'avais joué avec le groupe, avec Laurent Sinclair, le clavier de Taxi Girl. Je les avais vus à l'époque, Taxi Girl, plusieurs fois. Puisque ma sœur traînait donc dans le milieu, je croisais souvent Alexis, le manager de Taxi Girl. Enfin voilà, et Daniel, après, pendant 20 ans, dès que tu allais à un concert de choses qu'on aimait, il était là, je le croisais. Voilà. Quand je voyais Daniel ne rien faire, mon humeur pouvait être changeante. À des moments, je me disais, mais quand même, c'est dingue la loose, dans la loose qu'il est. À d'autres moments, je me disais, mais quand même, c'est quand même incroyable qu'un type comme ça ne fasse rien. Et puis, un jour, on me demande de faire une chanson pour Dani, puisqu'elle avait fait un comeback sur Comme un boomerang avec Dao, avec cette chanson qui était restée dans un tiroir pendant 20 ou 30 ans.
Qui était un super hit aussi, hein, qui s'est très, très bien vendu.
Exactement. Et là, elle doit faire un album, et j'ai un ami qui aime ce que je fais, et qui bosse chez EMI, et là, il me dit, écoute, il faut absolument que tu écrives une chanson pour Dani, et ça me parle. Et là, je me dis, tiens, il faudrait que je trouve quand même une idée, parce que je pouvais très bien donner la chanson seule, texte et musique. Mais je me dis, tiens, c'est une idée de demander à Daniel. Parce que juste avant, je m'étais dit, mais plutôt que de voir ce gars-là ne rien faire, pourquoi tu ne fais pas quelque chose avec lui? Parce qu'en fait, peut-être que depuis le début, et même d'avoir travaillé justement en maison de disque, de voir la limite en fait, du business dans le... dans ta vie, dans ce que tu veux projeter, musicalement, artistiquement. En fait, moi, ce qui m'a marqué vraiment quand j'étais enfant, c'est l'afterpunk et c'est le DIY. C'est-à-dire qu'en fait, c'était avant les réseaux sociaux, donc si tu voulais qu'il y ait du monde à tes concerts, bah, t'appelais des amis, tu faisais un concert, il y en avait 10, après il y en avait 20, après il y en avait 30. Tu passais la nuit à coller des affiches,
tu distribuais des tracts,
tu faisais des photocopies, tu vendais tes billets chez Neurose, tu vendais tes billets à la Fnac, tu te débrouillais toi-même. Mmh. Et donc en fait, quand t'es produit, d'un coup, t'as l'illusion que les gens savent que ce que tu devrais faire, mais en fait, personne d'autre que toi sait ce que tu dois faire, même si c'est des erreurs aussi. Et puis aussi, moi, le fait que ça ne fonctionne, si je reviens sur mes disques, les faits qu'ils ne soient pas des succès, ça ne veut pas du tout dire pour moi que c'est pas bien. Quand j'étais enfant, il y a plein de choses que j'aimais qui marchaient énormément, comme les Beatles. Mais il faut se souvenir que, par exemple, les Smiths en France, ça vendait que dalle.
Le Velvet,
c'était un flop total. Que les Smiths en France, ça n'a jamais été gros. Que même David Bowie, à l'époque d'Heroes, c'était pas très gros en France. Hein. Faut quand même, il passait pas dans des émissions mainstream. Donc, en fait... De proposer cette chanson à Daniel, c'était des choses complètement naturelles, en fait. Donc, la première fois qu'il m'invite chez lui, et c'est marrant parce que il me l'avouait après, en fait. Il devait me rappeler, puis il s'était trompé, il m'avait oublié. Et puis, il devait appeler un Frédéric, et puis, en fait, il s'est gouré de Frédéric, et il m'a appelé, moi. Et c'est comme ça qu'on s'est revus.
Donc, c'est là que j'ai évoqué le hasard et le destin.
Bien enfin, sûr, bien sûr. C'est... Non, mais bien sûr, il y a aussi... Tu sais, quand tu parles aussi que je suis un musicien accompli, moi, je ne me considère pas ni comme un virtuose. C'est pas ça, c'est juste... c'est un instrument de musique, il est là pour que tu t'exprimes. Quand j'étais enfant, surtout à l'afterpunk, il y avait plein de choses où les musiciens jouaient extrêmement bien et ça ne me parlait pas. Alors, qu'est-ce qui est une chanson réussie? Qu'est-ce qui te parle? C'est toujours un mystère, ça. C'est juste. C'est le mystère d'une œuvre, c'est le mystère de la vie. C'est comme ça.
Eh bien, cette chanson, tu peux nous l'interpréter peut-être?
Tout à fait. Donc, c'est Rouge Rose.
Donc, ce premier morceau que tu as enregistré avec Daniel Darc.
Tout à fait.
Voilà.
Serait-ce le vent, serait-ce la pluie, serait-ce simplement l'ennui? Toi tu m'attends, moi je m'enfuis, tu pleureras toute la nuit. Mon amour, la nuit ne dure pas. Le soleil rouge rose détruit tout, chaque fois. À peine éclose, m'as-tu offerte, souviens-toi. Elles sont fanées comme ces années vécues entre toi et moi. Mon amour, la nuit ne dure pas. Le soleil rouge rose détruit tout, chaque fois. Est-ce le vent ou est-ce dans la nuit que je dirais je t'en prie? Je t'aimais tant, oui, mais pourtant je crois que c'est bien fini. Mon amour, la nuit ne dure pas. Le soleil rouge rose détruit tout chaque fois. Il se fout de toi et moi. Tournons et tournons encore et ne dis pas un mot. Tournons et tournons encore avant qu'il ne soit trop tard ou trop tôt. Combien de roses à peine écloses m'as-tu offertes? Souviens-toi. Viens tournons sans un mot. Viens tournons. Il fait noir, mon amour, la nuit ne dure pas. Le soleil rouge rose détruit tout chaque fois. Il se fout de toi et moi. Rouge sang, rose ta peau, c'est fini.
Aligre FM 93.1.
Merci beaucoup Frédéric Lau pour cette très belle interprétation de ce morceau, on va dire, inaugural entre Daniel et toi. Donc, à partir de là, Daniel vient chez toi tous les jours, à 9h du matin. Il faut savoir que c'est quand même... Daniel Darc, c'est une personne qui a eu des gros problèmes avec la drogue, avec l'alcool. Donc, comme on vient de le dire, qui était au fond du trou. Et là... Tu arrives à le choper, entre guillemets, et il vient chez toi tous les jours à 9h, et vous bossez pendant un an et demi comme des dingues.
Ouais.
Et ça donnera un album qui est maintenant très connu, qui s'appelle Crève-Cœur, qui est sorti en 2005,
ouais.
Et qui a très bien marché, qui a eu un succès de presse déjà inouï.
Ouais.
Même moi, j'étais le premier surpris, parce que je pense qu'on était tous à se dire que Daniel Darc était perdu pour le rock français. Et donc, il y avait effectivement le côté comeback, mais il y a plein de comebacks qui reviennent et puis ça ne touche pas. Donc, grand succès critique, succès de vente. L'album s'est très bien vendu, hein, je crois que c'est 60 000 ou plus.
Oui, tout à fait. Ça ne met pas toujours, et même là, 20 ans après, oui.
Surtout qu'on est déjà à la période où les ventes physiques ont déjà beaucoup baissé. Donc ça reste déjà un chiffre énorme, en sachant que c'était vachement... À l'époque, c'était le piratage, c'était Napster et compagnie. Et notamment les rappeurs ont beaucoup souffert de ça. Mais aussi, je pense que les rockers et la chanson française a souffert de ça. Donc ça, succès critique, succès public et même succès institutionnel, entre guillemets. Oui. Parce qu'il y a des prix. Il y a le prix de la révélation aux victoires de la musique.
Oui.
Alors, voilà, on parlait de ça tout à l'heure parce que, effectivement, la notion de réussite est tout à fait relative dans l'art. Mmh. Mais quand la réussite artistique rejoint la réussite commerciale et institutionnelle, c'est un peu un miracle à ce moment-là.
Ah non, mais ça, c'est sûr. C'est sûr, parce que tu l'avais cité l'autre fois, mais moi, je dis souvent ça, que la réussite, c'est un échec qui a foiré. C'est-à-dire qu'en fait, on a fait cette... Quand je fais Crève-Cœur... Avec Daniel, là, je me demande si je vais continuer à vivre de la musique. Donc, je me demande si je ne vais pas commencer à chercher un autre travail. Parce qu'en fait, c'est pareil, c'est un long. Je pense que il faut de l'argent quand même pour être libre. Et donc, moi, je préfère faire un autre métier et faire mon art librement que de commencer à penser à comment je pourrais gagner de l'argent avec mon art. Je trouve que c'est très différent. Et donc là, je rencontre Daniel. C'est lui qui me demande de continuer, mais en balbutiant au début. Il a même un tampon, il s'est fait un tampon Daniel Roseau auteur. C'est-à-dire qu'il a même oublié qu'il est Daniel Darc. Il a même oublié qu'il pouvait chanter. Et donc il me dit, mais ça ne te dit pas qu'on écrive d'autres chansons pour d'autres gens? Ou tout timidement, il dit, pour moi, pour d'autres gens, parce que j'ai un petit truc quand même. Là, je lui dis, mais Daniel, tu es Daniel Darc, tu... Donc, on a fait cet album comme ça, dans sorte... Donc, lui avait vraiment envie. C'est pas moi qui le chope, c'est vraiment lui qui veut venir à moi. C'est-à-dire que je pense que ça peut pas être autrement. Et évidemment que moi, j'avais envie, mais j'avais vraiment envie, oui, un peu comme une mission aussi. J'avais envie qu'il soit reconnu à son juste titre. C'est-à-dire que dès qu'on a fait cette chanson ensemble, je suis arrivé chez lui, j'avais cette mélodie. Il a écrit le texte en une semaine devant moi, chez moi. Et dès qu'on a fait la démo de cette chanson, qui est la version de Crève-Cœur, ça nous a beaucoup plu tous les deux. Et je trouve qu'à ces moments-là, ça suffit. Tu ne peux pas savoir si ça va te plaire, si tu vas être 2, si tu vas être 2000 ou si tu vas être 200 000 personnes. Tu ne sais pas. Et là, 20 ans après, même, je suis en ayant fait l'album Hommage à Daniel et en ayant tourné avec Peter Doherty sur l'album The Fantasy Life of Poetry and Crime, j'étais surpris, et même quand on tournait en France, où Peter était surpris aussi. À chaque fois, il y avait une photo de moi et de Daniel, ou une photo de Daniel, et j'avais l'hôtelier de la salle qui venait me voir avec autant de respect que Peter. Et donc ça, on a fait un album librement dans mon salon, en étant complètement DIY, et évidemment que c'était une grande joie aussi. Et une grande aventure aussi.
Donc, succès, tant pour Daniel que pour toi, et qui vous sauve tous les deux, parce que toi, tu es envisagé d'arrêter de vivre de la musique. Donc, et après, ça ne s'arrête pas, parce que toi, tu vas travailler avec Alex Baupin.
Oui, tu fais des chansons d'amour.
Des chansons d'amour de films de Christophe Honoré.
Oui.
Ça marche très bien aussi, 80 000 exemplaires, je crois.
Oui, oui.
Un César de meilleure musique de film. C'est pareil, un César...
Ouais.
Et puis, bon, bah, tu enchaînes, hein, je te l'ai cité tout à l'heure avec Stéphane Echer.
Ouais, j'étais très content de faire. J'ai fait Eldorado avec Stéphane. J'aime beaucoup Stéphane.
Lui, c'était un pionnier, effectivement, ça, tu l'as cité dans une interview que j'ai lue. Tu disais que c'était un des premiers qui a réussi à joindre l'underground et la variété, et à cartonner au top 50 avec des chansons qui étaient parfaitement produites, et puis des super mélodies, enfin, une vraie qualité artistique, quoi.
Bien sûr.
Et donc, oui, c'était important pour toi de travailler avec lui.
C'était, Ah oui, c'était oui, parce que c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, que j'avais beaucoup écouté. J'adorais son premier album, Les Chansons Bleues. J'adorais. J'aimais la démarche, et puis je voyais bien qu'il aimait les mêmes choses que moi. Il s'était mis à travailler avec Dian.
L'absus intéressant.
Voilà, c'est vrai. Mais, et puis voilà, c'est aussi. Daniel et moi, on sortait d'un an et demi de travail assez isolé. Et puis d'un coup, beaucoup de gens voulaient nous rencontrer. Et c'était agréable de rencontrer des gens qui m'avaient plu, voilà, et qui veuillent travailler avec moi aussi.
Et d'un coup, plein de gens sont venus frapper à ta porte.
Ah oui, d'un coup, c'est
le t'es passé mec que personne ne savait dans la maison de disques à celui qu'on va absolument avoir.
Ce qui était le paradoxe aussi, ce qui était très drôle pour moi, c'est que je m'étais retrouvé donc à faire des albums solo où là, j'avais une lumière incertaine. Et le moment où je me mets dans l'ombre, c'est où là, d'un coup, il y a une pleine lumière. Donc, c'était assez, je trouvais que c'était assez drôle, ça.
Ah, ouais. Et donc, tu as aussi travaillé pour Maxime Le Forestier et Florent Pagny.
Oui.
Je t'avouerai
oui.
que moi, ça m'a surpris.
Oui, oui.
D'abord, je l'ignorais, j'étais pas au courant.
Oui, oui.
Et Maxime Le Forestier, j'arrive presque à comprendre, mais Florent Pagny, quand même, je trouve ça étrange. C'est des commandes, c'est pas toi qui a été le voir pour dire tiens, j'ai des chansons pour toi.
Ah, mais bien sûr, c'est des commandes. Mais même quand je rencontre Maxime Le Forestier, quand je travaille vraiment comme producteur en étant. C'est souvent la maison de disques qui veut que je travaille avec cet artiste-là. Moi, je suis très honnête. Je leur dis que je ne connais pas leur œuvre ou je connais les chansons les plus connues. Mais ce qui est intéressant, c'est que je deviens un peu comme un auditeur lambda. C'est-à-dire que Maxime, il y avait des choses que j'aimais chez lui, notamment son premier album. D'un coup, je connaissais quelques chansons, mais j'écoute. D'un coup, je me dis, waouh, c'est quand même il est vraiment fort. Quand je le rencontre, il me joue de la guitare, il chante, il me fait écouter des duos qu'il a fait avec John Baez.
Ouais, sa période californienne hippie, quoi.
Il rigole pas du tout. Hein. Il me raconte qu'il a rencontré The Band, que voilà, il est très fort. Et puis en même temps, il a le côté un peu, voilà, il a vraiment, il bossait, il venait de faire une tournée sur Georges Brassens, sans sono. Il avait un côté vraiment intéressant, Maxime. Et puis là, c'est pareil. À ce moment-là, peut-être que j'ai aussi la main là-dessus pour. On fait un morceau que je trouve très beau, qui s'appelle Restons amants. Et d'un coup, ça faisait 15 ans qu'il n'avait pas eu autant de radio. Et je fais une chose assez simple. Hein. Je fais une chose assez, justement, très limpide, très, un peu Beatlesienne, hein, très ligne claire, où d'un coup, je fais vivre cette chanson. Et c'était vraiment un très bon moment de travailler avec Maxime. Il m'invitait à déjeuner des pâtes, sortir une super bouteille de vin. Florent Pagny, c'est un autre truc. Ça c'est aussi un de mes paradoxes. Moi, je regrette toujours de ne pas avoir été à New York en 62 ou à Carnaby Street en 63.
Ouais, t'es pas le seul, voilà. T'es pas le seul.
et donc, je te pose la question... Je suis producteur, j'ai fait des choses à la fois intéressantes. Je serais américain. Il y a un ancien qui m'appelle. Ce serait Bruce Springsteen ou ce serait... Je ne sais pas qui.
Non, mais les anglo-saxons n'ont aucun complexe et aucun problème avec l'argent et avec les contrats et avec les commandes.
Non, mais j'aurais un gros artiste américain qui m'appellerait.
Mm-hmm.
Je serais anglais. Peut-être c'est David Bowie qui m'appelait. Là, je suis en France. Et c'est pas non plus. C'est pas une révélation. Je n'écoute pas la variété française. Donc, à la limite, les anciens, je vais les avoir écoutés. Je vais avoir aimé beaucoup Jacques Brel ou Georges Brassens ou je sais pas.
Et si on serait venu te chercher pour faire un album de Johnny Hallyday, est-ce que tu aurais accepté?
Oui, parce qu'en fait, voilà. C'est ça que je voulais te dire. C'est le bout de... Quand on me propose Florent Pagny, c'est un des plus gros vendeurs français. c'est comme Johnny Hallyday, c'est pareil.
Ouais, c'est ça, ouais.
Et on fait un premier rendez-vous. Et là, à ce moment-là, moi, je suis très honnête avec la personne. Je dis, Florent, moi, je ne connais pas votre œuvre. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Et il m'invite à un concert. Et son concert, je trouve ça vraiment pas mal. Je trouve que c'est bien fait. Je trouve qu'il y a des super musiciens. Il y a des amis à moi qui jouent avec lui. Et après le concert, je lui dis, mais qui produit ces concerts? Il me dit, c'est moi. En fait, le gars paye 7 musiciens, de très bons musiciens.
Ça coûte cher. Hein.
Avec son argent, pour que ce soit bien. Et les 2-3 chansons qui me plaisent le plus, parce que moi, je me souviens très bien de comment j'étais quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, mes parents écoutaient Stop ou Encore. Donc, il y avait des choses que j'adorais, enfant, comme Paul Naref, Dutronc, Françoise Hardy, Gainsbourg. Et puis, il y avait des choses plus fleurs bleues ou plus... Par exemple, moi, j'adore Michel de Gérard Lenormand. Ou j'aimais, je ne sais pas, Les Divorcés de... Bref, des chansons de variété. Mmh. Et d'un coup, je vois qu'il y a une ou deux chansons qui me plaisent de Florent. Et après, donc, en fait, mon job, là, c'est de faire que le disque... me plaisent plus. Enfin, comment faire pour que les amener à quelque chose qui me semble, moi, plus cohérent, moins tape à l'œil, peut-être plus classique aussi. Mm-hmm. C'est ce que j'avais fait avec Restons Amants. Et en fait, ça, souvent, ça marche très bien. Et l'autre chose aussi que j'ai appris en faisant ça, et ça, c'était Dominique Blanc-Francard qui m'avait appris ça. Et j'ai trouvé, parce qu'il m'a appris énormément de choses aussi sur le métier. C'est-à-dire que c'est très, très bien de faire des choses que vous adorez, mais vous apprenez aussi énormément en faisant des choses que vous aimez moins, parce que vous n'avez aucun affect et vous avez aussi d'énormes moyens. Donc, d'un coup, grâce à Florent, j'ai fait des cordes à Abbey Road, où j'ai d'autres moyens, j'ai pu tester aussi des musiciens. Il y a aussi un truc très important, c'est que quand je suis réalisateur comme ça, je ne joue pas tous les instruments. Donc, en fait, j'appelle tous mes amis que je paye, musiciens ou ingénieurs du son, que je paye grassement et qui sont des gens qui ont travaillé très dur pour peu d'argent dans des productions indépendantes que j'ai faites. Donc, d'un coup, c'est un peu comme un réalisateur dans les années 80 de cinéma qui fait des... publicité, non, même, ça permet...
Même Francis Ford Coppola, il disait que Val faisait des films pour lui et des films commerciaux, pour financer ses films à lui aussi.
C'est ça.
Et il y a une petite astuce, c'est quand il y a Francis Coppola, bah, c'est une commande de studio.
C'est ça.
Quand c'est Francis Ford Coppola, c'est une œuvre à lui.
C'est ça. C'est encore une fois le moyen d'être indépendant.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.
On est toujours avec Frédéric Lowe, sur Aligre FM 113.1, vous venez de l'entendre. Alors, tu vas peut-être m'aider à régler une grande question existentielle qui m'a toujours obsédé. Je suis très sérieux. Hein. C'est quoi la différence entre la variété et le rock? Ou la variété, parce que la pop, ça n'a pas existé en France. C'est un truc anglais, la pop. Okay. Nous, en France, on a la variété. Et c'est quoi la différence essentielle entre les deux? Est-ce que tu en vois une d'abord?
Je ne peux pas te répondre, en fait. C'est ce que je te disais au début, moi. J'ai passé ma jeunesse pendant très longtemps. On me disait, bah, toi, tu fais de la variété. Et puis, les gens qui faisaient de la variété, pour eux, je faisais du rock. Et puis, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai fait Daniel Dark,
ouais.
Et là, 20 ans après, que j'ai fait Peter Doherty, ben, on ne pose plus cette question.
Plus t'avances, plus tu deviens rock, plus tu deviens indé.
Non, ou alors tous mes potes qui me disaient qu'eux, ils étaient des vrais, ils ont tous arrêté de faire de la musique. Et puis moi, je fais des tournées mondiales avec Peter Doherty.
C'est pas une question anodine, hein, parce que. Après, il y en aura une autre encore plus profonde qui m'obsède encore plus. Si tu veux, par exemple, certaines personnes, certaines notamment des musicologues, mais pas forcément des gens de la musique ou des philosophes, ont cherché à définir la musique. Par exemple, le blues, on s'est dit que voilà, c'était la note bleue, c'était la mélancolie, la nostalgie. On a dit que le flamenco, c'était le cri de l'âme en exil. Mm-hmm. La musique romantique, bah, c'était l'art romantique par excellence. Le jazz, c'était le jeu pour le jeu, c'était l'instrument. Modestement, j'ai écrit un petit bouquin sur le rock où j'essayais de définir l'essence du rock. Donc, je cherche, c'est quoi l'essence de la variété, c'est quoi l'essence du rock, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel là-dedans. Et je crois que toi, j'ai l'impression que ça te pose aucun problème et que tu passes de l'un à l'autre sans cas de conscience.
Non, je pense que moi, je me suis défini comme étant pop, mais en fait, peut-être la grosse différence pour moi, quand je travaille avec un artiste, en France, hein, j'ai vraiment cette impression que ce qui fait la différence, c'est est-ce que tu as joué jeune dans un groupe ou est-ce que tu as fait juste des playbacks à la télévision ?
Alors, c'est marrant ce que tu dis, parce que Arnaud Vivian est venu ici et lui, sa définition du rock, parce qu'on en parlait de ça, et c'est un grand problème, pour lui, c'est le groupe. Parce qu'en fait, dans le jazz, c'est pas un groupe, c'est un leader avec des gens qui jouent. Dans le classique, c'est un chef d'orchestre qui a des interprètes. Et d'un coup, dans le rock, c'est cette association musicale. Et c'est pas tant une association de musiciens, c'est une association de caractères. Mmh. Et cette association de caractères dépasse la simple addition des personnes.
Oui, oui.
Donc ça, c'est une piste intéressante.
Pour moi, c'est... Non, mais c'est aussi pour moi, est-ce que... Tu vois, est-ce que moi, j'ai usé mes guêtres à jouer à Pigalle ou au Gibus. Dès qu'on était gamin, on faisait un concert. Je pense que c'est quand même ce côté d'où tu viens. Tu vois, je pense que...
Un ancrage.
Mais bien sûr, quand j'entends McCartney jouer Yesterday, pour moi, c'est du rock parce qu'en fait, il a passé sa jeunesse à jouer Chuck Berry.
À Hambourg, au fond d'une cave.
C'est ça. Non, mais je pense qu'il y a vraiment ça. Et donc, je pense que quelque part, même que ce soit par exemple avec Daniel ou que ce soit avec Peter, je me souviens très bien de ce test-là. Un jour, il me dit, viens, on va jouer. On joue dans un restaurant à une terrasse à Étretat, comme ça. Il voulait voir, en fait. Et puis il me regarde en souriant, il fait, si on peut jouer là, on peut jouer partout. Puis il fait, t'as vu, même on a le repas et une bière gratuite. Et en fait, oui, c'est ça. Je pense que c'est le truc de... Je pense que peut-être que c'est parce que... Moi, j'ai pas l'air rock'n'roll parce que justement, je suis un petit-fils de prolo. Et je suis un peu comme... j'ai souvent expliqué ça à des amis. Par exemple, si tu prends... Brian Ferry qui est habillé avec une veste et tout. Il est habillé avec une veste parce que justement c'est un prolo. Il se met sur son 31 pour être beau, c'est Sinatra aussi, c'est pareil. Les ancêtres des bobos, c'est par exemple les Stones. Jagger, c'est un aristo. Donc évidemment, il s'habille en haillons, il fait genre, ouais, il est cool.
Ah ouais, c'est exactement ça.
Et donc pour moi, McCartney, il a toujours été plus rock'n'roll que les Stones pour ça. C'est juste, ça me semble évident, dans l'attitude, peut-être dans une tension, et moi c'est sûrement ce que j'ai, une tension qui n'est pas visible, mais qui est vraiment là.
Un rapport entre la création et l'institution, oui, un rapport dialectique entre les deux.
Bien sûr.
Ouais.
Et puis le côté aussi... que malgré tout, on vient de la rue. Enfin, c'est-à-dire que si ça a marché, Daniel et moi, ou si ça a marché, Peter et moi, par exemple, c'est qu'à un moment donné, ça ne s'trompe pas. On n'est pas... Il n'y en a pas un qui est debout en haillon et puis l'autre qui est assis sur une chaise. Non, on se lève et puis on joue les chansons.
Manœuvre en parle très bien. Il faut dire que Manœuvre, quand l'album est sorti, il a qualifié... Alors Manœuvre, c'est quand même quelqu'un qui a vu passer des gens, hein. L'adjectif qu'il a employé, c'est un album surpuissant. Et il a ajouté un album que Bowie aurait beaucoup aimé faire.
Tu parles de quel album ?
De Crève-Cœur.
De Crève-Cœur.
Tu savais pas
Non, je savais pas ça.
Je t'enverrai le lien de l'interview. Album surpuissant, il est dit à écouter entre 3 et 4 heures du matin. Et il dit un album que Bowie aurait adoré faire, surtout à cette époque-là, en 2005, où il faisait plus grand-chose. Alors l'autre grande question que je vais te poser... c'est quoi la différence entre la création et la production ?
Pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, quand tu es dans un studio, il n'y a pas de hiérarchie non plus. Il n'y a pas un chanteur, il n'y a pas un batteur, il y a juste des gens ensemble qui créent. Et peut-être que j'ai eu énormément de chance d'être nommé et d'être visible en tant que producteur. Parce que j'ai plein d'amis et collègues qui faisaient le même travail que moi, qui n'ont jamais été cités. Mais les anglo-saxons ont des prix pour le travail qu'ils font. Pour moi, un producteur de disque, c'est exactement comme le réalisateur d'un film. Et en France, très souvent, c'est un peu comme si on parlait des comédiens, quoi. Et on ne fait aucune distinction non plus, savoir si c'est leur dialogue, si ce n'est pas leur dialogue, si, qui fait quoi. Après, peu importe, je n'ai pas non plus besoin de... Je trouve ça très agréable de pouvoir créer, de pouvoir vivre de ma musique et puis d'être tranquille quand je me balade. Hein. J'ai pas d'envie de succès pour autre chose que ce que je fais. Pour moi, on est ce qu'on fait, en fait. Mais oui, il n'y a pas de différence.
Ronald Burger est venu ici, dans cette émission, et il disait exactement la même chose que toi, parce qu'il travaille avec Dr. L, et il découvre que le producteur est un artiste à part entière, et qu'il n'y a plus de hiérarchie, il n'y a plus de séparation du travail, au sens vraiment industriel du terme. Donc c'est très intéressant ce que tu dis. Alors maintenant, parce que l'heure avance, hélas, on va quand même parler de ta dernière production. Donc tu as travaillé avec Pete Doherty.
Oui.
Donc là, c'est quand même une star internationale, connu dans le monde entier,
oui.
C'est presque un mythe vivant avec tout ce que ça a de négatif et de positif. Mmh. Et tu travailles avec lui, alors pareil, je crois que ça s'est fait sur la pointe des pieds, la rencontre, des tâtonnements, des un peu... voilà, ça s'est fait doucement, c'était pas une commande, c'était pas du tout lui qui arrivait vers toi pour dire voilà, je vais faire un album.
Non, c'est moi qui vais voir Peter parce que j'ai cet instinct, j'ai toujours suivi aussi mon instinct, c'est exactement comme quand j'ai demandé à Daniel de participer à la création d'une chanson pour Dany. Là, je voulais que Peter participe à mon album hommage à Daniel. Et lui habitait trop tard. J'ai mis un peu de temps à avoir un rendez-vous parce que on était en plein confinement. Et voilà, je comprends ça. Mais quand on s'est vu, on s'est tout de suite entendu. Et surtout, le truc de dingue, c'est que quand je lui ai joué la chanson « Without Use and I'll Use Dop »,« Inutile et hors d'usage », qui est une chanson de crève-cœur que j'ai écrite avec Daniel, et bien Peter, qui fait 1m85, s'est mis à pleurer. C'est-à-dire qu'il a pleuré devant...
C'est une adaptation de Bill Pritchard,
voilà,
qui lui aussi est bouleversé par le morceau, et je crois que c'est un de ses morceaux préférés.
Oui, tout à fait.
Donc tu arrives à toucher deux anglais,
voilà.
En plus des pas les moindres.
Voilà, c'est-à-dire qu'au moment où Peter...
Avec une chanson française.
Voilà, Peter me tend la guitare, hop, je me dis, on y va. Et là, d'un coup, il se met à pleurer. Et là, il va chercher des bières, on se met à boire. Et puis j'ai toujours sa guitare entre les mains, comme là. Puis après, on boit et puis j'ai continué à jouer des... Je lui ai raconté la genèse de Crève-Cœur. Je lui ai joué Rouge Rose après, en disant, tiens, c'est la première chanson qu'on a faite, tout ça. Parce que d'un coup, il découvre que c'est ma musique. Il découvre aussi que c'est mon ami, qu'il est mort. Enfin, il comprend l'histoire.
Parce qu'il s'est installé en France, voilà, à Étretat précisément. Voilà.
Et là, je joue d'autres titres, un peu des morceaux comme ça. Et puis là, il me dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Je dis, je sais pas, c'est un début de morceau que j'ai. Et voilà, on passe l'après-midi comme ça à boire des bières et à faire de la musique. Et là, c'était comme... ultra évident, pour lui comme pour moi. Enfin, c'est-à-dire que c'était exactement comme ce que j'aime, en fait. C'est aussi ce que j'aime aussi dans les groupes, c'est justement aussi les duos de songwriters. Keith Richards avec Jagger, ou Lennon McCartney, ou...
Ce que là, pour une fois, il a un peu changé son rôle, parce que lui, c'est un auteur-compositeur.
Tout à fait.
Et là, c'est que toi qui fais la musique.
Voilà. Là, c'est Johnny Marr Morrisset.
Voilà. Et alors, c'est un album qui est très orchestré, avec des violons, piano, enfin, c'est une production presque classique.
Oui.
Et il y a un chef-d'œuvre, enfin, il n'y en a pas qu'un, mais il y a un morceau qui s'appelle Monsters,
oui.
The Monster,
oui.
Qui est pour moi un morceau, mais sublime.
Oui.
Excuse-moi, j'ai pas compris le petit papier qu'on vient de me glisser.
Oh, merci.
Oui, on a bientôt fini, leur passe trop vite. Mais laissez-moi du temps, on passera pas le dernier morceau parce que je préfère écouter Frédéric Lowe que ces morceaux pour aujourd'hui. Donc je finis juste. J'en étais où? Donc The Monster, c'est un petit chef-d'œuvre qui rappelle Salomé, un autre chef-d'œuvre de Pete Doherty. Et on va finir quand même sur deux albums hommages que tu as sortis consécutivement pour Daniel Darc. Donc
oui.
Un avec des stars, donc Dao, Biolay, Birkin, etc.
Oui.
Et puis un autre, tout seul.
Oui.
Alors moi, je te cache pas que je préfère vraiment celui où tu es tout seul, qui est bouleversant.
Oui.
Tu n'aimes pas le terme chef-d'œuvre parce que tu trouves que c'est galvaudé, mais pour moi, c'est un petit chef-d'œuvre, c'est un miracle parce que tu as ressuscité Daniel Darc. Rapidement, comment tu as fait? C'était des maquettes, c'était des chutes, des inédits, ou tu as tout réenregistré? Comment ça s'est passé? Pour Parenthèse Enchantée.
Parenthèse Enchantée, en fait, il y a 5 ans, Universal m'avait demandé de ressortir Crève-Cœur dans une version de luxe. Et il me demandait si j'avais pas un ou deux inédits. Et je dis oui, je devais peut-être en avoir deux. Puis là, d'un coup, j'ai découvert 18 chansons. J'avais oublié qu'on avait composé ces chansons. Donc, alors certaines, c'est des démos. D'autres, j'ai retravaillé un peu dessus. Certaines étaient presque finalisées. D'autres, c'est vraiment des ébauches. Il y a un morceau qui s'appelle Ankouyam, par exemple, où c'est juste Daniel à côté de moi. Et hop, c'est une prise. Et j'en ai pas d'autres.
Et ça finit l'album.
Oui.
Et ça finit sur un éclat de rire.
Oui, tout à fait.
Ça, c'est beau, ça. Parce que ça nous sort du cliché artiste maudit. Vous, malheur.
Oui, oui.
Merci beaucoup Frédéric Lo d'être
merci
venu.
Merci beaucoup de m'avoir invité.
Je remercie évidemment Enrico, tu reviendras donc. Enrico Mastroianni et Luca Pintour. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Et Yves Tenray, merci beaucoup.
Merci à toi.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.